été une demande qui s'imposait à moi. Pendant des années, s'il vous plaît, tu avais été d'une grande fidélité à nos samedis les rameaux. Et puis à un moment donné, l'histoire a fait que ça n'a plus se continuer de la même façon. Alors je t'ai demandé si tu nous faisais l'amitié de revenir nous voir. Tu as accepté. Alors Bertrand, tout le monde le connaît. Pour moi, c'est un être un peu atypique. J'ai dit atypique, c'est pas un jugement. Puisqu'il arrive à partir d'une science qui n'est pas si molle qu'elle n'en a l'air, la philosophie, à parler de sa foi, et à parler de sa foi au croisement de sa science, de son enseignement qui a guidé sa vie, l'enseignement de la philosophie, de sa foi, de son engagement de vie de chrétien, et en regardant les tumultes de ce monde. Donc, il a accepté de venir intervenir une fois de plus. Je précise qu'il le fait tout à fait gracieusement, et je l'en remercie infiniment. Parfois, on arrive à lui rembourser un billet de train, mais des fois, il faut un peu se battre. Et il va nous parler du péché. Alors, le péché, selon Bertrand, enfin, c'est une formule, bien sûr, c'est quelque chose qui me paraît intéressant, parce qu'il va renvoyer au plus profond, finalement, de l'homme, pour comprendre le sens de cet acte épouvantable qui nous atterre tous, mais qu'on a souvent bien du mal à calibrer, et qui n'est pas exactement de la même nature quand on a mangé un éclair au chocolat pendant le carême ou quand on a trahi quelqu'un. Voilà. Donc je vais te laisser parler. Nous avons une grosse heure et demie pour laisser le temps ensuite aux gens de se poser un peu et de se préparer à la répétition des chants de Pâques pour la chorale. Quelques-uns vont peut-être nous rejoindre. Et merci à tous d'être là. Voilà, Bertrand, à toi la parole.
Merci beaucoup.
On récite. Oui, oui, tout à fait, Jean.
Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens de la terre de vie, viens en nous, purifie-nous de toutes souillures et sauve-nous.
Ben écoutez, je vous salue toutes et tous, et je suis extrêmement honoré et heureux d'être parmi vous pour aborder cette notion si mal comprise du péché. Nous vivons dans un monde qui ne veut plus entendre parler du péché. Essayez de prononcer le mot péché, vous allez apparaître comme un horrible bigot, au point que un certain nombre de chrétiens n'osent plus utiliser ce mot. Pourquoi ? Pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'on n'aperçoit pas les sources du péché. La seconde, c'est qu'on confond le péché et la faute. Si le péché, c'était la faute, on l'appellerait la faute. Or, on l'appelle le péché. La faute découle du péché, mais le péché n'est pas la faute. Et la faute est plus que le péché. Je pense que la notion du péché est une notion totalement libératrice, ce que n'est pas la notion de faute. Et pour vous permettre de la comprendre, je voulais vous parler de quatre choses. La première, c'est de parler de la connaissance. La deuxième, c'est de parler de la véritable signification du péché qui ne signifie pas la faute, mais rater la cible. La troisième, c'est de nous reporter au récit de l'exil, que l'on appelle la chute, dont on parle également en parlant du péché originel. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, de la notion de péché dans les évangiles, en particulier à l'occasion de la femme adultère. Et puis, je terminerai par les moyens de sortir du péché. Je crois que on se trompe énormément à propos du christianisme dans notre monde en disant le christianisme, c'est l'amour et le Christ est venu nous enseigner l'amour. Aujourd'hui, des gens qui nous parlent de l'amour, il y en a partout. Tous les penseurs athées de notre époque sont pour l'amour. Attention à ne pas faire du Christ un prophète de la non-violence ou de la paix parmi les hommes. Je me réjouis qu'il y ait de l'amour. Je me réjouis qu'il y ait de la paix. Je me réjouis que l'on soit dans la non-violence. Mais je remarque une chose, c'est que le Christ, c'est d'abord non pas Dieu, mais la connaissance de Dieu, qui est la véritable signification de l'amour. J'aime bien dans mes conférences m'imaginer que je suis confronté à un public qui n'a jamais entendu parler de Dieu et qui n'a jamais entendu parler du Christ. Qu'est-ce que je dis ? Pas plus tard que ce matin, je corrigeais encore le texte d'une moniale qui me dit « Je voudrais faire un texte sur l'ascèse. » Très bien, ma sœur. Et je lis son texte et je découvre une chose, c'est que elle ne parle pas à des gens qui ignorent tout et de Dieu et du Christ. Elle parle directement de Dieu et du Christ comme si c'était une chose évidente. Or, je pense que c'est très intéressant pour nous de devoir à chaque fois revenir sur les sources fondamentales de notre foi, c'est-à-dire Dieu, le Christ, faire bien comprendre ce que ça signifie, parce que ça va nous permettre de comprendre la connaissance, et à partir de là, ça va nous permettre de comprendre, d'une part, ce qu'est le péché, comment le péché, entre guillemets, fonctionne et comment on peut en sortir. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de Dieu ? L'expérience de Dieu est l'expérience la plus extraordinaire qui soit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, un, l'homme n'est pas seul dans l'univers et, d'autre part, il vit dans un monde fondamentalement vivant. Autour de nous, l'idée d'un monde sans Dieu, c'est que l'homme est métaphysiquement seul au monde. Il a été jeté dans le monde, un monde qui est totalement indifférent à ses souffrances et à ses peines, comme le dit Jacques Monod, à la fin du hasard et la nécessité. Et le monde n'est pas vivant. L'expérience de Dieu, c'est l'expérience du fait que nous ne sommes pas seuls au monde. Et quand nous rentrons dans l'intime de nous-mêmes, il correspond quelque chose dans l'infini, dans une relation d'un « je » à d'un « tu ». L'expérience de Dieu, c'est une expérience totalement personnelle où dans l'intime de ma personne, il y a une relation avec une personne infinie qui me parle et qui me guide. ça change totalement la vie. Il y a la vie avant Dieu, et puis il y a la vie après Dieu. Avant Dieu, je suis seul, et j'essaye héroïquement, courageusement, de pouvoir agir. Avec Dieu, je rentre dans un dialogue infini. Je crois que, à la source de l'enseignement du Christ, il y a la connaissance. Je relisais ce matin encore des passages liés à la connaissance. Quand on parle de la vie éternelle, c'est la même chose que la connaissance. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la connaissance ? L'expérience de la connaissance, c'est ce qui se passe quand on rentre dans l'intime et qu'on est dans une communication d'intime à intime. Dieu veut se faire connaître à l'homme et toute sa démarche à l'égard de l'homme consiste à faire en sorte de se faire connaître à lui dans l'intime de lui-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire libérer totalement la vie. Lorsque Bergson explique ce qu'est la vie, il dit voilà, la vie est un phénomène non pas extérieur qui gouverne la nature, mais intérieur. Et lorsque la vie se développe totalement, elle rentre dans le vivant où rien n'est extérieur à rien, tout est intime à tout, tout est infiniment vivant. L'expérience de Dieu, c'est l'expérience de l'infiniment vivant, et le Christ est l'accomplissement de cet infiniment vivant. Cette semaine, dans la grande semaine, comme disent les Grecs, mégalo evdomada, la grande semaine, nous allons rentrer dans cet infiniment vivant, dans cette vie éternelle, qui est le cœur de nous-mêmes et le cœur de toutes choses. Ce qui se passe dans l'expérience de la vie éternelle, de l'infiniment vivant, c'est une extraordinaire harmonie liée à la douceur. Et je crois que c'est ce que signifie très profondément la charité et l'amour de Dieu. Lorsque Motovilov est en face de Saint-Séraphin de Sarov et que Saint-Séraphin de Sarov apparaît transfiguré, Saint-Séraphin demande à Motovilov « Qu'est-ce que vous ressentez ?» Et Motovilov dit « Je ressens de la douceur, une infinie douceur. » L'infinie douceur, c'est la suprême connaissance. C'est la suprême relation d'intime à intime. Quand on est dans cette expérience de l'intime et de la douceur, la mort n'existe plus. Nous sommes dans autre chose, de totalement nouveau, inédit. L'expérience de la connaissance, c'est l'expérience du Dieu vivant, c'est l'expérience de la vie chrétienne, c'est l'expérience de la vie en Christ. Non seulement l'homme n'est pas seul au monde, mais il peut vivre avec Dieu. Cette semaine, il s'avère que je faisais un article pour un de mes amis philosophes totalement athées et que je précisais la chose suivante à propos de la foi. La foi ne consiste pas à admettre que Dieu existe et, comme dit Aristote, qu'il y a une cause première. La foi consiste à vivre avec Dieu dans une relation intime et à traverser le monde où cette relation intime est sans arrêt contestée ou bien encore déformée. Rentrer dans la vie divine, c'est rentrer dans l'absolument vivant. À partir de là, nous pouvons comprendre ce que veut dire le péché. Pour comprendre le péché, il faut comprendre ici ce que veut dire l'équilibre, l'harmonie, la justice, la justesse. Dans notre monde, ce qui est magnifique, c'est de rencontrer des êtres équilibrés, harmonieux, qui amènent l'harmonie autour de nous. Nous nous en rendons compte, a contrario, quand nous avons affaire à un monde déséquilibré, non harmonieux, où quelque part, rien ne tient la route. C'est la grande souffrance de ce monde. Regardez ce qu'on appelle les tribulations du monde. En permanence, on a affaire à des déséquilibres. Nous en avons eu un exemple retentissant cette semaine. Tout d'un coup, pour une raison que l'on ne connaît pas encore, un incendie se déclare dans la cathédrale. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce joyau flambe. Qu'est-ce qu'il y a eu à la base ? À la base, vous trouverez toujours quelque chose qui aurait dû se faire, bien se faire, et qui n'a pas été fait. Quelque part, il y a eu un manquement. Magnifique de trouver l'équilibre, la justesse. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre et la justesse ? C'est la divine trinité où tous les éléments de l'existence sont rassemblés. Nous sommes reliés à la matière, à l'humanité et à Dieu. Nous sommes liés au cosmos, à l'anthropos, au théos. Nous sommes liés au corps, à l'âme, à l'esprit. Nous sommes reliés à la matière, au personnel, au transcendant. Souvenons-nous de la divine Trinité, on n'oublie rien concernant la réalité. On respecte tous les aspects de la réalité. Regardez autour de nous ce qui se passe. Quand nous sommes dans un monde équilibré, on est dans la plénitude. Quand on est dans un monde déséquilibré, bien tout d'un coup, il y a trop. On est trop dans la matière, on est trop dans l'humain, ou on est dans un idéalisme religieux qui n'est pas Dieu, mais que l'on prend pour Dieu. L'expérience de la plénitude, c'est l'expérience de la justesse, c'est l'expérience du Christ, qui n'était pas plus homme que Dieu, ou plus Dieu que homme, qui était autant homme que Dieu, Dieu que homme, parce qu'il était la plénitude. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans les sagesses orientales, c'est les exercices corporels que certains sages font pour pouvoir s'éduquer à la sagesse. Et en particulier, ils apprennent parfois à se tenir en équilibre sur une jambe et à garder l'équilibre. Pourquoi est-ce qu'ils font cet équilibre ? Parce que cet équilibre ne peut être fait que si on est dans un état de concentration et de vie spirituelle totale, et c'est un équilibre qu'un être humain normal ne peut pas tenir. Il faut quelque chose d'autre, un équilibre venu d'ailleurs. Il y a une paix venue d'ailleurs, et c'est totalement juste. Regardez dans notre monde quel bonheur nous avons lorsque quelqu'un s'exprime bien, qu'il a le mot juste, qu'il a le jugement juste, c'est un bonheur. Regardez à l'inverse, quand nous avons affaire à des propos déséquilibrés, des mots déséquilibrés, tout d'un coup, c'est pas ça. Et là, il manque quelque chose. Pascal disait, il y a toujours un point d'un tableau où on peut voir le tableau. Trop loin, on ne voit pas les détails. Trop près, on ne voit pas l'ensemble. Entre les deux, il y a un point tout à fait extraordinaire, qui n'est pas simplement un point humain, qui est une grâce, un cadeau qui nous est donné. Très important d'avoir le jugement en médecine. Regardez combien à un moment est important d'avoir le diagnostic pour être capable de bien mettre les mots sur les mots. M-A-U-X. Et regardez les erreurs dramatiques qui se font quand à un moment il y a des erreurs de jugement. Ça nous permet de comprendre ici la notion de péché. Le péché en français, ça ne veut pas du tout dire la faute. Ça ne met pas en relation le mal. Le péché, ça veut dire tu pèches par excès ou par défaut. Le péché, ça veut dire tu n'es pas dans l'axe, tu n'es pas dans la cible. Tu en fais trop ou tu en fais trop peu. Qu'est-ce que c'est que le péché ? Le péché, c'est quelqu'un qui ne sait pas régler son attitude intérieurement par rapport à ce qui est, et il est ou négligé, ou bien à un moment, il en fait trop. Descartes nous dit dans un langage laïque, il y a deux choses qui menacent les hommes, et c'est un peu les deux faces de la même médaille, c'est la complaisance ou la précipitation. La complaisance à soi ou la complaisance au groupe. La complaisance au groupe, je répète ce que les autres disent. La complaisance à soi, je me fais plaisir. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le jugement, il y a la lumière. Je ne me fais pas plaisir, je ne fais pas plaisir au groupe. J'écoute la pensée et tout d'un coup, en écoutant la pensée, ah, je dis quelque chose qui pense, qui est juste, ça vient du cœur, c'est lumineux. Quelle est la différence entre le péché et la faute ? La faute, c'est le péché extérieur. Le péché, c'est, on pourrait dire, la faute intérieure. Autour de nous, il y a des modèles auxquels il faut obéir, il y a des règles auxquelles il faut obéir, et la faute, c'est l'homme désobéissant qui n'en fait qu'à sa tête et qui n'obéit pas à la règle et qui n'obéit pas au modèle. Il a fait une faute. Faire une faute, c'est de dire à quelqu'un, voilà, vous êtes payé pour faire ça ou ça ou ça, et on vous demande de vous le faire, et si vous ne le faites pas, vous êtes en faute. Donc, je ne suis pas en faute, je respecte la règle ou le modèle. Le péché, c'est autre chose. Le péché, c'est ce qui fait que je suis dans un état de faute. C'est-à-dire, c'est le fait, à un moment, de ne pas être en règle intérieurement avec moi-même, qui fait que je ne vais pas être en état de règle à l'extérieur. Autour de nous, nous avons affaire à des gens qui sont dans la délinquance. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont fait des choses graves, ils ont cru qu'ils pouvaient tout se permettre, et en particulier se permettre le vol ou la violence. Puis tout d'un coup, ils sont rattrapés au tournant, on leur demande des comptes, ils passent devant la justice, ils sont punis. Mais quand on va en profondeur, derrière la faute, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une faute, pourquoi ? Parce que ça fait des années que ça ne va pas. Parce que ça fait des années que la famille ne va pas. Ça fait des années que le tissu social autour ne va pas. Parce que, en fait, ça fait des années que tout le monde pêche. Et que dans ce monde qui est totalement déséquilibré, il finit par être fatal à un moment qu'on fasse n'importe quoi. Et ce n'importe quoi donnant la faute. Autrement dit, le péché est essentiellement spirituel. Qu'est-ce qui fait qu'il y a péché dans le monde ? C'est que l'homme n'est plus dans l'axe vertical qui relie l'immanent au transcendant, l'humain au divin, pour laisser s'exprimer Dieu à l'intérieur de l'homme. Résultat, l'homme passe totalement à côté de la vie et il est déséquilibré dans son corps, il est déséquilibré dans son âme, il est déséquilibré dans son esprit. Il ne vit pas la présence, la relation à la présence infinie, il est, comme on dit, totalement à côté de la plaque. Rien ne va, finalement, tout est désorganisé. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comment ça s'actualise dans la culture qui est la nôtre, la mémoire qui est la nôtre. Et je pense important, ici, de prendre trois éléments. Un élément tiré de la Bible, le fameux péché originel, et deuxièmement, deux éléments tirés des évangiles. Je crois que pour comprendre ce qu'on appelle le péché, n'oublions jamais la connaissance, la relation personnelle d'intime à intime. Avant toute chose, la notion de péché originel n'est pas une notion orthodoxe. C'est une notion qui a été mise en place par saint Augustin et qui a quelque part totalement dévié notre manière d'envisager la Bible, la tradition hébraïque et par là même notre propre tradition. Ça n'a pas de sens de parler de péché originel, parce que parler de péché originel, c'est poser un discrédit sur l'origine. Or, l'origine n'est pas pécheresse. Qu'est-ce que c'est qu'une origine ? Une origine, ce n'est pas la même chose qu'un commencement. Un commencement, c'est un début dans le temps. Une origine, c'est un climat spirituel qui y a à l'occasion du commencement. Dans notre vie, nous avons tous un commencement et nous avons tous une origine. L'origine, c'est le climat spirituel dans lequel un être humain grandit. Quelle est votre origine sociale ? Quelle est votre origine familiale ? Remontons à l'origine. À l'origine, qu'est-ce qui se passe ? À l'origine, les parents s'entendaient bien, la vie était merveilleuse, tout allait bien, il a eu une très bonne éducation. Ou à l'inverse, à l'origine, ça n'allait pas du tout, les parents se chicanaient, il a une très mauvaise éducation. De quoi nous parle la Bible ? La Bible ne nous parle pas du commencement. Elle nous parle de l'origine. Et quelle est l'origine de la Bible ? L'origine de la Bible est extraordinaire. C'est la création du monde par Dieu et le fait que Dieu veut toute la création et il veut tout l'homme. Et il veut l'homme et l'accomplissement de l'homme. Dans l'histoire humaine, rien n'a été dit de plus beau. La Bible est un récit qui a été écrit lors de la déportation à Babylone. Et comme le disait un de mes amis juifs, c'est un récit dans lequel il s'agit non pas d'expliquer que Dieu est à la base de la création, mais quel est le vrai Dieu. Et quel est le vrai Dieu ? C'est le Dieu qui libère les hommes. Et qu'est-ce qui libère les hommes ? C'est de dire, à l'origine, ton origine n'était pas honteuse. Ton origine était magnifique. Il n'y a eu que de la création, que de la nouveauté, et qu'un infini désir divin que la création existe et que l'homme existe. Très intéressant dans le texte de la Bible, comprendre comment apparaît le péché, ce qu'on appelle le péché, et en quoi peut consister le péché. Si vous prenez le récit de la Bible, vous apercevez qu'il y a deux créations de l'homme, qu'il y a deux créations de la femme, et qu'il y a deux relations au péché. Premièrement, dans le chapitre 1 de la Genèse. Dieu crée l'univers. Dieu crée l'homme, mâle et femelle. Et il parle de l'homme au pluriel. Il place l'homme, il crée un jardin qui est le jardin de l'Éden. Et il est dit, tu pourras manger de tous les arbres de ce verger, sauf de l'arbre de la science, du fruit de l'arbre de la science, du bien et du mal. Petite parenthèse, je suis sidéré de voir que dans notre monde, on continue de parler de la pomme. Ève aurait donné une pomme à manger à Adam et le péché serait d'avoir pris la pomme. Il n'est nullement question de pommier à l'intérieur du verger. La pomme renvoie à la pomme de discorde qui est dans la mythologie où à un certain moment Héra jette une pomme entre trois déesses qui va les amener à se disputer les unes avec les autres et sur la pomme est marqué « à la plus belle ». Donc la pomme, c'est la pomme de discorde qu'on trouve dans la mythologie qui n'a rien à voir avec la vie. Premier récit, création de l'homme. L'homme est au pluriel, il est mâle et femelle. Dieu s'appelle Yahvé Elohim, tout à fait, c'est-à-dire à la fois je suis, mais en même temps je suis toutes les énergies inconscientes qui se trouvent à l'intérieur de l'existence, et l'homme est placé dans le jardin d'Éden, il peut manger de tous les fruits, mais il se dispense, on lui demande de se dispenser, de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deuxième création, Dieu crée l'homme, et cette fois-ci, il n'est pas du tout dit que Dieu crée l'homme, crée mâle et femelle. Deuxièmement, Dieu s'adresse à l'homme et lui dit, Tu pourras prendre de tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le verger, mais tu ne prendras pas du fruit de l'arbre du milieu. Changement complet d'approche. Il n'est plus question de la connaissance du bien et du mal, il est question de l'arbre du milieu. Suite à quoi ? Dieu considère l'homme et trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il prend une côte de cet homme et, comme il dit, il bâtit la femme à l'intérieur de cette côte. Bâtit la femme. Et là, nous apercevons que c'est là que va intervenir la question de ce qu'on appelle le péché. Comment ça se passe, la notion du péché ? La notion du péché, ça se passe de la manière suivante. Remarquez une chose. Lorsque Dieu parle à Adam et qu'il lui dit « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », ou bien du fruit de l'arbre du milieu, Adam ne se révolte pas du tout. On dit, et saint Augustin dit, l'homme s'est révolté contre Dieu, et malheureusement, un certain nombre de pères orthodoxes voient dans Adam un révolté originel. Il y aurait en l'homme quelque chose de fondamentalement rebelle. Absolument pas. L'homme, Dieu lui dit, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il n'y a aucune révolte de la part de l'homme créé mâle et femelle, ou bien encore de l'homme qui, à qui a été donnée la femme et qui est bâtie à l'intérieur de lui-même. Donc ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qui intervient ? Le serpent. Qui est le serpent ? Ce n'est pas celui qui rampe par terre, c'est le plus rusé des animaux qui sont dans les champs. Qu'est-ce que dit le serpent ? Le serpent dit à Ève, « Dis-moi, on t'a interdit de prendre de tous les arbres qui sont ici. » Et Ève, qu'est-ce qu'elle dit ? Pas du tout. Nous avons le droit de prendre de tous les arbres, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Attention, nous voyons qu'elle n'est nullement pécheresse au départ, c'est elle qui redresse la déformation mensongère qui vient du serpent. D'où le serpent revient à la charge et dit, tu sais pourquoi il ne veut pas que vous preniez que tu prennes du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que il ne veut pas que tu sois comme lui, Dieu, et si tu deviens comme lui, Dieu, vous mourrez. Et là, Ève est un petit peu déconcertée et rassurée par l'idée que, au fond, cette notion de mort est totalement inventée, elle consomme du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et elle en donne à son époux. Et là, troisième élément, c'est là qu'ils découvrent, elle et lui, qu'ils sont nus et qu'ils en ont honte. Alors, je crois que là, nous avons une analyse magnifique de ce que veut dire le péché. Quand est-ce que le péché arrive dans l'humanité ? Quand l'humanité n'écoute plus Dieu en ligne directe, mais qu'à un moment, elle écoute non pas l'intelligence céleste, mais l'intelligence banale, l'intelligence rusée. Qu'est-ce que dit l'intelligence rusée ? L'intelligence rusée, elle est focalisée par l'interdiction. Elle dit, si Dieu vous a empêché de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que, vous voyez, il vous a interdit quelque chose. Et Ève dit, pas du tout, nous n'avons pas été du tout interdits. Nous avons la possibilité de pouvoir manger de tout, sauf d'un arbre. Deuxièmement, revient à la charge, mais si on vous a empêché de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que Dieu veut rester le seul à être Dieu. Autre mensonge, les hommes ont été créés à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, pour la ressemblance. Ne disons pas que Dieu veut être le seul à être Dieu, puisque, en fait, la similitude entre Dieu et l'homme existe déjà. La similitude entre l'homme et Dieu existe déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a dans le péché d'Ève ? Je crois une seule chose, dont la conséquence va être importante. C'est une perte de vigilance. Ève a été admirable. Elle a parfaitement déjoué la première ruse du malin, mais elle n'a pas déjoué la deuxième ruse du malin. Lorsque le malin lui dit, il t'a interdit de consommer du fruit de l'arbre, de tous les arbres, elle a parfaitement répondu. En revanche, quand le malin lui dit « tu ne mourras pas », là, rassurée, elle pense qu'il n'y a plus aucun risque apprendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et par là même, elle a une perte totale de vigilance qui la conduit à quoi ? Mais qui la conduit tout d'un coup à s'être laissée séduire par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à le trouver bon, et curieusement à se retrouver nue, à apercevoir qu'elle est nue, que son mari est nu, et à en avoir honte. Qu'est-ce que c'est que la nudité ? Et pourquoi est-ce que Dieu dit à l'homme, ne consommez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Pour que la connaissance humaine existe, pour que la connaissance tout court existe, il y a une chose qui est fondamentale. Il faut admettre le vide. Sans vide, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que c'est que le vide ? Le vide, c'est ce qui permet à Dieu de s'exprimer et de passer. Ce matin, j'étais à la gare de Lyon, et donc, monsieur, qui est tout à fait gentil, qui m'a dit, vous êtes Bertrand Vergely, quel plaisir de vous rencontrer, j'aime beaucoup vos livres, et puis nous parlons, et il me dit, vous avez lu Paul Diehl, et il dit, vous savez, ma vie a changé quand j'ai lu son livre, La peur et l'angoisse. Puis on parle de l'angoisse, puis il dit, vous savez, l'angoisse, c'est intéressant, parce que l'angoisse, c'est le suspense. Et le suspense, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas tout, mais c'est génial, parce qu'il y a quelque chose en suspens qui est à savoir. Qu'est-ce que c'est que le truc en suspens à savoir ? C'est l'essence de la théologie négative, c'est l'essence du Christ, c'est l'essence de tout. Il y a des choses que nous savons, et il y a des choses que nous ne savons pas encore. Et qu'est-ce qui donne toute sa saveur à la vie ? C'est premièrement qu'il y a des choses qu'on sait, puis deuxièmement des choses qu'on ne sait pas encore. Être dans le savoir et ce que je ne sais pas encore, c'est ce qu'on appelle la croix glorieuse. On est obligé de mourir à son intellect pour s'ouvrir à la surintelligence qui permet de donner vie à toute chose. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, nous sommes dans une véritable connaissance ? C'est qu'on reste vigilant, on reste attentif, on reste ouvert à ce qui vient. Attention, Dieu existe, mais vous ne savez pas tout. Il y a le Fils. Attention, le Fils est là, mais vous ne savez pas tout. Il y a l'Esprit. Attention, il y a la vie du Christ sur terre, vous ne savez pas tout. Préparez-vous, restez vigilant, restez ouvert. Vous ne savez pas tout, veillez dans votre cœur, priez, restez attentif, vous allez voir. Lorsque Dieu demande à l'homme de ne pas manduquer, consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il lui demande de rester attentif. Pourquoi ? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la fausse connaissance. Qu'est-ce qui est terrible dans le monde, et en particulier le monde religieux ? C'est le jugement péremptoire qui condamne. Qui est-ce qui a des jugements péremptoires qui condamnent ? C'est les pharisiens de tous bords. Qui sont les pharisiens de tous bords dans le religieux ? C'est les légalistes. D'où vient le terrorisme aujourd'hui ? Des légalistes, des fondamentalistes. Que disent les légalistes et les fondamentalistes ? Nous savons qui est Dieu, nous allons faire respecter l'ordre de Dieu sur terre. Et vous allez voir, nous allons réussir la religion là où la religion a raté. D'où viennent les faux sauveurs dans notre monde? De tous ceux qui disent « Nous savons ce que c'est que la véritable religion, nous savons ce que c'est que le véritable salut, vous allez voir, nous allons le réaliser. » Qu'a dit le communisme? Nous sommes le vrai salut, nous allons vous sauver. Marx le dit en tout... Nous savons que la vérité de l'histoire, c'est le socialisme, et le socialisme va réussir ce que la religion n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'a dit le nazisme? Nous savons ce que c'est que le véritable salut, c'est la race. Nous allons créer un homme nouveau, vous allez voir, nous allons réussir ce que les autres n'ont pas réussi. Que dit le transhumanisme aujourd'hui? Grâce aux nouvelles technologies, nous allons créer l'homme-dieu et nous allons réussir ce que les autres n'ont pas réussi. Et en particulier, la résurrection, c'est nous qui allons la faire grâce aux nouvelles technologies et ça va être la résurrection pour tous. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sait. Personne ne s'apprête à savoir. Personne ne se prépare. Personne n'est dans le suspense. Tout le monde consomme du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout le monde est péremptoire. Et qu'est-ce qui se passe? On détruit l'histoire. Ne pas consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est dire ne détruisez pas l'histoire humaine. Attendez. Vivez ce qu'on appelle le mystère de la souffrance, qui n'est absolument pas la douleur. La souffrance, c'est la patience pour attendre la liberté à l'intérieur de la nuit. Donc nous commençons à comprendre ici ce que c'est que le péché. Le péché, c'est la déformation mensongère qui entraîne, qui est liée à une perte de vigilance. Et qui débouche sur quoi? Sur la tragédie de l'homme. La nudité, c'est le vide. C'est magnifique d'être dans la nudité, parce que dans la nudité, tout est ouvert. Mais quand à un moment on a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a honte de la nudité, on n'ose plus vivre en suspens, on n'ose plus attendre, on a obturé tous les canaux qui mènent à l'intelligence. Depuis Platon, en passant par toute la théologie du Moyen-Âge et en passant par la modernité, les philosophes n'ont cessé de dire « Attention, il y a une crise de l'intelligence dans l'humanité ». L'intelligence de l'humanité est une intelligence céleste. La sagesse des hommes est une sagesse céleste. La crise de l'intelligence, c'est ce qui se passe quand une sagesse humaine, une intelligence humaine, prend la place de l'intelligence céleste. Qu'est-ce que l'intelligence humaine? L'intelligence rusée, uniquement guidée par le pragmatisme, l'utilitarisme. Ça débouche sur quoi? Ça débouche sur ce monstre fabriqué aujourd'hui qui s'appelle le conséquentialisme en morale, où on juge en morale non plus d'après des principes, mais d'après les conséquences. Et l'idée est la suivante, si une conséquence est bonne, finalement, pourquoi pas? Avec ça, on justifie le crime. Si le fait de tuer quelques hommes permet d'apporter la paix à la cité, pourquoi pas? Si la prostitution, l'inceste ou le sadomasochisme procurent du plaisir et permettent aux gens de défouler leurs pulsions, pourquoi pas? On est dans la nuit. Crise de l'intelligence. Nécessité à l'inverse de revenir à la véritable intelligence, l'intelligence céleste qui dit « Attention, en fonction de la vocation qui est la tienne et qui est l'avenir inouï que l'homme que Dieu réserve à l'homme, ne commence pas à penser ton existence uniquement d'après le pragmatisme et l'utilitarisme, parce que autrement tu vas arriver dans un monde renversé où tout le monde marche sur la tête. L'application de cela, c'est quoi? L'application de cela, c'est ce qui est dit dans les évangiles avec le Christ, dans deux occasions. La première, c'est Matthieu au chapitre 5, et la deuxième, c'est Jean au chapitre 8. Il y a quelque chose qui me frappe énormément dans un passage du Christ, c'est quand il s'adresse à la foule et qu'il dit « On vous a dit, ne commets pas d'adultère ». Et lui dit « Moi je vous dis, si vous avez pensé à l'adultère dans votre tête, vous avez commis l'adultère. » Alors ça c'est important parce que ça précède aussi l'épisode de la femme adultère. Ça veut dire quoi l'adultère ? L'adultère, ça veut dire que l'homme ne peut pas servir deux maisons, deux épouses. C'est quoi l'épouse de l'homme ? L'épouse de l'homme, c'est les profondeurs inconscientes de lui-même qui viennent de l'origine de la création. C'est-à-dire, c'est la partie la plus intime. Il y a deux intimités dans l'homme. Il y a l'intimité céleste, qui est l'ultra-profondeur, puis l'intimité humaine. Être en état d'adultère, c'est être dans une vision purement humaine et pas simplement céleste de l'intime qui est en nous. Et qui fait qu'à un moment, si nous avions le sens de l'intime, nous aurions une véritable sexualité et nous n'aurions pas tous les problèmes que l'humanité rencontre avec la sexualité, c'est-à-dire un intime purement humain qui ne les satisfait pas et qui réclame de plus en plus d'intimes humains pour essayer de trouver l'intime divin qui n'a pas été trouvé. Qu'est-ce qu'il faut pour aller dans l'intime ? Il faut être un, il faut être de tout son être, c'est-à-dire dans les sensations les plus profondes à l'intérieur de soi-même, qui sont d'habiter son corps, son âme et son esprit. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la haute connaissance. Dans l'épisode de la femme adultère, qu'est-ce qui est dit ? Un jour, le Christ est dans le temple, les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qui vient d'être prise en flagrant délit d'adultère, et ils disent « Nous allons la lapider ». Et qu'est-ce que fait le... Il dit cela pour provoquer le Christ en disant « Bon, n'est-ce pas que tu vas la lapider, comme tout le monde, pour respecter la loi ? » Et qu'est-ce que fait le Christ ? Le Christ prend son doigt et il écrit par terre. Puis il se relève et il regarde la foule et il dit cette phrase importante « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre » et puis il réécrit de nouveau par terre. Et là, il est dit que des plus âgés aux plus jeunes, tout le monde sort du temple et le Christ se retrouve seul avec la femme et il dit « Où sont ceux qui t'ont condamné ? Est-ce qu'on t'a condamné ?» Et la femme dit non et là le Christ lui dit « Va et ne pêche plus. » Alors là nous sommes au cœur de la question du péché. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'accomplissement de l'enseignement. Premier point, que l'être humain aille dans son intimité fondamentale avec Dieu et qu'il ne soit pas en état d'adultère avec un intime humain totalement inaccompli et insatisfaisant. Mais attention, rectifier l'état d'adultère, ça n'est pas de le faire par la lapidation et la mort. C'est d'arrêter de lapider. C'est d'arrêter de mettre à mort ceux qui ne sont pas dans la noce fondamentale. C'est important, pourquoi ? Parce que dans notre existence, nous avons tendance premièrement, à être en état d'adultère, mais deuxièmement, à mal sortir de l'état d'adultère. C'est-à-dire, si l'état d'adultère consiste à ne pas être dans un intime frelaté, l'état d'adultère consiste à ne pas s'être purifié à l'égard des modes humain, trop humain, de purification. C'est quoi les modes humains, trop humains, de purification? C'est la punition. C'est la mise à mort. C'est la vengeance. C'est d'organiser des grandes tueries. Regardez autour de nous, dans le monde brutal et violent dans lequel nous sommes, on organise des tueries. Quand vous avez les terroristes, qu'est-ce qu'ils disent? On va faire une grande tuerie, et vous verrez, ça va purifier le monde. Je ne sais pas ce qui se passe à Paris actuellement, mais vous avez des casseurs qui sont là, qui disent, on va faire une grande tuerie, et vous allez voir, ça va purifier le monde. Puis tout le monde est en train de punir tout le monde. Résultat, nous n'avons rien compris à l'essentiel. L'essentiel est le plus urgent, c'est que l'homme retrouve sa noce intérieure. C'est qu'il retrouve l'extraordinaire de sa vocation. Alors, que faire pour sortir du péché? Sortir du péché, c'est l'aventure la plus extraordinaire qui soit à l'intérieur du monde. Pourquoi? Parce que tout est pécheur à l'intérieur de notre monde, c'est vrai. Regardez par exemple ces scandales qui ont lieu dans les pharmacies et les produits pharmaceutiques. Pour faire de l'argent, vite fait et bien fait, on fait des produits qui sont mal faits et qui ont des conséquences catastrophiques sur les êtres humains. On a fait naître des enfants sans bras. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi à des médicaments, on a mal réfléchi. On donne aux femmes des prothèses mammaires qui explosent et qui, à un moment, ravagent leur corps. On donne des produits pour lutter contre telle ou telle maladie, et ça se traduit par des milliers de morts. Notre intellect est pollué totalement, c'est une véritable tragédie. Mais, ce qui est magnifique, c'est que l'homme a en lui la mémoire de Dieu, le visage de Dieu, le potentiel de Dieu. Et ce potentiel de Dieu, il est dans notre corps, il est dans notre âme, il est dans notre esprit, il est dans notre connaissance. Comment sortir du péché? Il n'y a qu'une manière d'en sortir, c'est l'attention. Simone Veil dit, la vraie religion, c'est l'attention. La prière est attention pure. Vivre l'expérience de l'attention, c'est vivre l'expérience du Christ. C'est la relation du visible et de l'invisible. Je deviens présent à moi-même et j'essaye d'être présent à moi-même tout au long du jour. Et en étant à présent à moi-même, je rencontre Dieu à l'intérieur de moi-même qui me montre tout ce qui ne va pas et qui se réjouit de moi quand à un moment je vais. Et là, on est dans la vie divine. Lorsqu'on dit, voilà, l'Église orthodoxe nous propose la déification, et la déification, c'est la vie divine. C'est quoi la vie divine? C'est pas de diviniser l'homme pour en faire un être tout-puissant, c'est au contraire d'incarner Dieu dans l'homme par le fait de rentrer dans sa chair, et dans le fait de rentrer dans sa chair, de découvrir l'invisible de son corps, l'invisible de son âme, l'invisible de son esprit. Là, ce sont des choses merveilleuses qui se passent à ce moment-là. C'est le dialogue de l'homme avec Dieu. Dans ce monde qui est pécheur, il faut réapprendre aux hommes la véritable intelligence. L'intelligence, c'est l'intelligence de la vie que je vis et qui, tout d'un coup, permettant à ce qu'on peut appeler l'autoréflexion de la pensée de se faire, à un moment, de découvrir les multiples moyens qu'il y a pour réparer le monde. Le monde est très blessé, mais il y a de multiples moyens de le réparer. Et dès lors que nous faisons l'expérience de notre sensibilité profonde et notre sensation profonde, en découvrant l'invisible autour de, à l'intérieur de nous-mêmes qui nous guide, nous découvrons ici un chemin extraordinaire de résurrection. Et là, je dirais, commence la véritable voie de la connaissance. La voie, c'est la voie de l'émerveillement. Qu'est-ce que l'émerveillement? L'émerveillement, c'est d'apercevoir que par rapport à la réalité, nous n'avons encore rien vu. Nous ne savons rien, tout est à découvrir, car nous n'avons pas imagination de la vie qui nous attend. Je crois que toute la tradition de l'Église, toute la prière de l'Église est là pour faire de nous des êtres attentifs, et derrière des êtres attentifs, des êtres émerveillés qui viennent aider le monde et participer à son salut. Je vous remercie pour votre attention.